Et nous sommes en votre compagnie, François Hesbourg, bonjour. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Avant d'évoquer à la fois l'Iran, le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, je voulais bien entendu parler de cet attentat qui a une fois de plus ensanglanté les rues de Paris samedi, perpétré par un Tchétchène. Votre réaction sur ce que l'on sait ou sur ce que l'on aimerait savoir au sujet de cet attentat, François Hesbourg?
D'abord, il faut laisser les enquêteurs faire leur travail, essayer de comprendre quelle a été la chaîne de causalité, plutôt que de se livrer à des déclarations à l'emporte-pièce, comme si chacun était devenu tout d'un coup un spécialiste de terrorisme d'origine tchétchène. Et autre réaction, évidemment, c'est que... Comme d'habitude, et il y en a eu toutes sortes de réactions sur le thème « Oh, encore un qui était fiché S, mais que fait la police ?» Ce qui m'inquiéterait vraiment, c'est que si le type n'avait pas été au fichier S, le jour où on commencera à voir des actes de terrorisme commis par des gens qui n'avaient aucun signalement préalable, alors là, on saura qu'on est devenu totalement aveugle, que le renseignement ne fonctionne absolument pas. Et bien sûr, le fait...
On l'a eu malheureusement, c'est arrivé, notamment dans le cas de l'attentat de Nice.
Il y a eu l'affaire de Nice, vous avez absolument raison, et c'était incroyablement inquiétant. Et lorsque l'on constate que la plupart des attentats réels ou déjoués ont été commis par des fichiers S, ça tente à montrer d'abord que le radar... et que sont les services de renseignement étaient tournés dans la bonne direction. La question est de savoir ensuite ce que l'on en fait. Et alors là, il y a un débat légitime sur l'art et la manière dont on exploite bien ou mal le fichier S. Je suis fondamentalement beaucoup plus rassuré lorsque j'apprends qu'un malfaisant a été au fichier que si j'apprends, comme dans le cas de Nice, que ce n'était pas le cas.
Sur le mode opératoire, on a affaire à un attentat suicide dans la mesure où ces hommes, ceux qui perpètrent des attentats avec un couteau, n'ignorent pas que il va être extrêmement compliqué pour eux de s'enfuir, voire de survivre. Et c'est le mot suicide, là aussi, qui est important. Votre impression, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France, François Hesbourg?
Non, pas du tout. Des attentats au couteau, il y en a eu énormément en Chine, par exemple, notamment du fait des terroristes dits Ouïghours. Et on a bien sûr le cas d'Israël. On a eu une floraison d'attentats de ce type à Londres au cours des derniers mois, dont on parle un peu moins que dans le cas français, sauf M. Trump, qui se sent obligé de relever le fait chaque fois que ça se passe chez quelqu'un. Aux États-Unis, on peut massacrer des dizaines de personnes avec des armes à feu, ça c'est pas grave, mais lorsqu'il y a un malfaisant comme en France qui tue une personne, alors là M. Trump dégaine tout de suite sa machine à tweeter. Oui, ce sont des attentats suicides dans le sens où dans leur idéologie, ce sont des attentats idéologiques, et il y a la recherche du paradis, de l'au-delà, la vie après la mort, ça fait partie du substrat intellectuel, idéologique de ce genre d'actes épouvantables.
Ce qui veut dire que c'est assez compliqué à combattre, d'une part parce que c'est compliqué à détecter. Et ce sont des attentats qui, bien entendu, coûtent peu cher à organiser. Et on voit que nous sommes finalement assez démunis contre ces actes, François Hesbourg.
Par définition, on est démunis par rapport à ce genre d'actes. On ne peut pas interdire la vente de couteaux de cuisine. Ce serait évidemment absurde. Et qu'est-ce qui peut passer par la tête d'une personne sur 65 millions? C'est quand même pas absolument évident.
Lorsque l'on observe cette suite d'attentats, est-ce que l'on peut en déduire que Daesh existe encore, que cette revendication a une valeur? S'agit-il d'un opportunisme?
Non, d'abord, l'organisation existe encore. La preuve, en l'occurrence, c'est que le script de l'attentat a été écrit avant l'attentat. L'idéologie dont se prévaut Daesh, car c'est une idéologie, n'a pas disparu, hein, hélas. Hein, et c'est pendant combien de temps y a-t-il eu des Staline et des Pol Pot? Pendant combien de temps y a-t-il eu des Mussolini et des Hitler?
Toujours dans l'actualité, ce week-end, un autre attentat, plus meurtrier encore que celui qui a frappé Paris, un attentat en Indonésie, et là aussi une réaction de votre part, François Hesbourg.
Oui, alors attentat revendiqué par Daesh contre des églises, contre des lieux de culte, au moment même où le président indonésien tente de jouer l'apaisement entre le culte majoritaire, hein, qui est musulman, et les cultes minoritaires, dont le culte chrétien, souvent identifié par ailleurs à la minorité chinoise. Donc on est là dans un mélange extrêmement toxique de l'idéologie de Daesh, mm-hmm, d'un côté, mais aussi de toutes les haines ethniques et religieuses de l'autre. Les Chinois, qui sont en quelque sorte les Juifs de l'Indonésie, dans l'imaginaire populaire là-bas, bien sûr, islam radical versus pluralisme religieux. Je serais très surpris que la greffe intégriste prenne vraiment. Ça risque plutôt d'isoler ceux qui ont tenté, sans être des Daesh, de jouer l'affrontement entre religions et ethnies, notamment à Jakarta, il y a quelques mois, avec l'éviction du gouverneur chrétien de la province.
Parce que la crainte, ce serait que Daesh ait de plus en plus de soucis au Moyen-Orient et du coup se déplace dans d'autres zones du monde.
C'est, j'allais dire, Daesh comme Al-Qaïda, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un substrat idéologique. Et l'idéologie, elle est partout. Elle est partout là où on peut y accéder par Internet, sur son iPhone ou que sais-je. Hein. Et on n'est pas forcément dans quelque chose de terriblement structuré.
Avec des variations malgré tout, puisque donc là, on voit qu'il s'agit d'une famille tout entière qui a visé des lieux de culte chrétiens. On voit qu'en fonction des régions, la manière dont Daesh, dont Al-Qaïda se forme et se reforme, eh bien cela varie ensuite en matière territoriale, avec des revendications qui diffèrent d'un lieu à l'autre.
Oui, ça varie d'un lieu à l'autre en fonction des circonstances spécifiques, et comme dans le cas de l'Indonésie, on est effectivement dans un registre que l'on ne trouve pas au Moyen-Orient ou en Europe occidentale ou en Australie ou aux États-Unis, qui est le registre, j'allais dire, ethnique ou ethno-religieux.
On a donc cette situation qui est une situation malgré tout inquiétante. Et puis, toujours à la une de l'actualité aujourd'hui, on voit que les conséquences de la désintégration de l'accord nucléaire iranien, la décision donc de Donald Trump, est bien évidemment ce qui provoque le plus de commentaires. Et c'est la raison pour laquelle souhaitons avoir votre opinion sur ce qui se déroule aujourd'hui entre les États-Unis d'une part et l'Iran d'autre part, François Hesbourg.
Oui, alors d'abord, le retrait américain de l'accord nucléaire iranien est totalement injustifié. D'autres l'ont dit, moi je le répète. Donc je vais pas gloser là-dessus, même si c'est le cœur du sujet.
Alors attends, ouais. N'allez pas trop vite en besogne, François Hesbourg, puisque cette ce non-accord, ou plutôt la fin de cet accord, a été motivé par Donald Trump, par la découverte par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, d'un certain nombre de documents qui prouveraient, je mets ça évidemment au conditionnel, que l'Iran posséderait toujours un programme nucléaire secret. Et lorsque Benjamin Netanyahou a fait cette déclaration, on a dit, mais tout ça, on le savait. Alors très bien, si on le savait, oui. Dans ce cas-là, ça signifie peut-être que cet accord était un mauvais accord.
Non, Benjamin Netanyahou a redit, et documentation iranienne à la clé, ce que l'on savait depuis 2003, et à savoir que l'Iran avait eu un programme nucléaire militaire et avait fait de grands pas vers la bombe, Et que c'est précisément pour cette raison que la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, ensemble, c'est rare hein, de voir ce groupe d'États travailler ensemble sur un sujet quel qu'il soit. On était suffisamment inquiets devant ce que l'on savait pour forcer l'Iran à venir à la table des négociations. Ça a été l'objectif des sanctions qui ont été imposées contre l'Iran il y a 6-7 ans, et vigoureuses, efficaces, et pour déboucher sur un accord dont M. Netanyahou n'a pas pu prétendre un seul instant lors de son briefing que l'Iran ne le respectait pas. Et là où il y aurait eu un scoop, c'est si Netanyahou avait dit « Nous avons la preuve que les Iraniens ont poursuivi leurs travaux et ainsi de suite. » Alors, on peut arguer, mais les Israéliens n'ont guère fait, que l'Iran n'avait pas le droit de conserver les archives sur le sujet. Formellement, c'est exact, l'Iran n'aurait pas le droit de conserver des archives.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que le traité de non-prolifération, qui est un instrument juridique, juridiquement contraignant au plan international, qui a été signé par la quasi-totalité des États de la planète, interdit à des pays non nucléaires de conserver des données sur l'art et la manière de fabriquer des armes nucléaires. C'est une forme de recel, si je puis dire. Mais il est vrai aussi que lorsque l'Iran se voyait obligé d'expliquer aux États négociateurs et à l'Agence internationale pour l'énergie atomique pendant la négociation de l'accord, était obligé d'expliquer ce qu'ils avaient fait dans le passé. Quelque part, il fallait quand même bien qu'ils aient des archives pour pouvoir expliquer ce qu'ils avaient fait dans le passé. Donc, très honnêtement, Netanyahou n'avait qu'un seul ne visait qu'un seul auditeur. C'est pour ça qu'il parlait en anglais, d'ailleurs. Cet auditeur, c'est un homme avec une tignasse
blonde. Des cheveux d'une couleur bizarre.
Voilà, un visage, une couleur assez voisine, d'ailleurs, et qui s'appelle Donald Trump. On a le droit d'être inquiet sur le rôle régional de l'Iran et ainsi de suite, et je le suis personnellement beaucoup. Mais Netanyahou a tout simplement servi la soupe à Trump.
Bon, je vais quand même faire quelque chose d'assez difficile. Je vais essayer de défendre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur cette question-là. Si véritablement le fait de rompre cet accord est une bêtise, si cela pouvait précipiter le monde ou en tout cas cette région-là dans la guerre, pourquoi Donald Trump a-t-il procédé de la sorte ? Pourquoi, sachant qu'on a affaire à un État, l'Iran, qui est un État du seuil nucléaire, puisque ils sont très proches d'avoir la bombe, pourquoi avoir couru le risque de rompre cet accord, François Hesbourg ?
Alors, je pense que dans le cas de Donald Trump, je ne parle pas forcément de son entourage, et dans le cas de Donald Trump, je pense que la lecture doit être essentiellement de politique intérieure, comme d'ailleurs pour l'affaire de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il a des élections au mois de novembre et l'Iran est depuis 1979, depuis les 444 jours de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, et moi je vivais à New York à l'époque, tous les jours, pendant 444 jours, vous aviez ce martèlement, d'ailleurs tout à fait justifié du point de vue médiatique. Les Américains, ils sont pas très bons en géographie. Il y a un pays qu'ils savent situer, qui existe sur leur carte mentale, c'est l'Iran. Et autrement dit, il ne sera jamais difficile à un président américain d'avoir des problèmes politiques en criant haro sur le baudet dans le cas de l'Iran.
Mais alors c'est tellement vrai que dans le New York Times, qui est donc un journal plutôt de gauche, le New York Times se félicitait de la rupture de cet accord, alors même que le New York Times n'a rien dit de positif sur Donald Trump.
Absolument, ce qui montre bien que Donald Trump a son habitude et a un jugement, hélas, assez fin de ce qui marche politiquement ou non aux États-Unis.
On verra si c'est une bonne affaire politique pour la région, parce que vous allez nous expliquer dans quelques instants, François Hesbourg, quelles vont être les conséquences de la rupture de cet accord, du déplacement de l'ambassade des États-Unis, pardon, à Jérusalem. Et puis, on va voir avec vous quelles peuvent être les conséquences régionales de la rupture de cet accord.